Vous avez fait aller là-bas, c'était la présence d'un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle Second Palais, qui s'est créé suite à l'appel à la délation lancé par la maire de Calais, Jacques. On voulait un peu voir tâter l'ambiance de Calais avec la présence et la montée en puissance de ce groupuscule. De fait, en arrivant, ce qu'on a ressenti, c'était pas tellement ça qu'on pouvait s'attendre en termes de tension, de poussée de violence, parce qu'on était dans un contexte assez particulier. On était dans les jours qui précédaient l'expulsion, du coup, qui a été annoncée le 26 mai, du coup, deux jours après notre demande, mais qui n'a été mise à exécution que le 28. Du coup, c'était dans une. Enfin, il y avait une espèce de flottement. Du côté des autorités, des pouvoirs publics, comme du côté des associatifs et des migrants. Et du coup, l'heure était vraiment à la réflexion, à la tentative d'imaginer ce qui se pourrait passer dans l'après-expulsion, parce que du coup, une chose était sûre, c'était qu'ils allaient être expulsés, comment, quand, c'était encore assez incertain. Et surtout, est-ce qu'il allait y avoir des propositions de relogement après ? Qu'est-ce qu'il allait advenir des différents migrants en fonction de leur statut, les mineurs, les demandeurs d'asile, les femmes, ceux qui étaient en situation totalement irrégulière et qui avaient déjà été arrêtés dans un pays précédent ? Du coup, pendant tout notre séjour, c'était plutôt cette posture d'attente, de réflexion, de tentative de discerner qu'est-ce que l'autre camp allait faire. Du coup, un rythme plutôt lent. Juste après notre départ, les choses ont totalement changé. Il y a une rupture de rythme mentale et les événements n'ont pas arrêté de s'enchaîner. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur les fils d'information qui retransmettent en direct ce qui se passe là-bas, mais depuis, ça n'arrête pas. Tous les jours, il y a au moins trois messages qui annoncent que telle et telle chose se sont passées. Je vais essayer de faire un bref résumé du coup, des principaux épisodes du coup, de ce fil d'événements qu'il y a eu entre le 26 mai et au jour d'aujourd'hui. Alors, il y a eu expulsion. Très peu de migrants se sont prêtés au jeu des autorités concernant le dispositif de traitement de la gale, ce qui fait que le dispositif de on prend tout le monde dans les bus et éventuellement on les emmène par-ci par-là. Il y avait un centre de rétention administratif qui avait été vidé deux jours avant. Du coup, dans le vent, il y avait quand même l'hypothèse qu'une grande partie serait amenée dans ce centre de rétention administrative. Et à la suite, sous le coup d'une expulsion, ça n'a pas eu lieu et on a assisté finalement à une mobilisation des migrants assez inédite, ou en tout cas ça faisait bien longtemps, ça faisait 2009 peut-être qu'on n'avait pas eu un mouvement de mobilisation aussi fort, avec une occupation du coup du lieu de distribution des repas géré par une association qui s'appelle Salam, par les migrants. Du coup, tous ont décidé, puisque plus aucun des trois gros campements qui avaient été présents, du coup, tous ont occupé cette zone-là. Il y a eu des débuts de pourparlers qui se sont instaurés entre les migrants, les associations, les activistes et la préfecture, avec des rendez-vous qui ont été pris. Il y a eu un rendez-vous qui s'est passé. Il y a du coup des représentants de la préfecture, il y a aussi des représentants du service social du conseil général qui est venu. Il y a eu un début de dialogue qui s'est instauré, sauf qu'il y a eu un troisième rendez-vous qui s'est mis en place et là, la préfecture ne s'est pas pointée. Du coup, les toutes petites bribes de pourparlers qui avaient commencé à se mettre en place ont été sapées totalement. Néanmoins, de son côté, la préfecture a commencé à lancer un plan d'urgence. Donc c'était quelque chose, que le plan d'urgence, ça concerne ceux qui ont relativement le plus de droits, c'est-à-dire les femmes et les mineurs. Et du coup, il y a un certain nombre de femmes et de mineurs qui ont été placées en centre d'hébergement d'urgence, mais qui représentaient une infime partie à l'échelle de ce qu'étaient les migrants, avec des arrivées qui continuaient. Donc quand on y était, ils étaient à peu près 400-500. Une semaine plus tard, ils étaient 600. Une semaine encore après, je crois qu'on est allé jusqu'à 800 personnes sur ce lieu de distribution. Du coup, alors qu'il y avait quand même ce plan d'urgence qui était lancé, qu'est-ce qui se passe ? À un moment, la mairie, du coup, Natacha Bouchard, lance une procédure d'expulsion du campement, lui aussi, enfin du campement du lieu de distribution sur lequel tout le monde s'était rassemblé, en faisant fi totalement des délais légaux pour lancer ce genre de procédure comme d'habitude. Donc les avocats qui défendaient la cause des migrants ont eu moins de 24 heures pour préparer le dossier. Ça a été, du coup, ça c'était le je crois, le 22-23 juin dans ces eaux-là au tribunal administratif de Lille, le matin à 9h du mat, le sort des migrants allait être décidé. Comme ça, avec la partie qui représentait les intérêts de la mairie, qui a fait une défense, totalement bancale, sur le fond comme sur la forme. Et de l'autre côté, l'avocat qui est spécialisé, qui a défendu tous les procès du même type qui concernaient les Roms, du coup, qui avait un petit bagage et qui, ils étaient à deux pour défendre la cause des migrants, et qui, eux, du coup, ont démontré le caractère irrecevable de la demande tant sur le fond que sur la forme. Moi, j'y étais en venant jusqu'à persuader 95% que la demande allait être déboutée, ou au moins qu'il allait avoir un renvoi de l'audience et du coup du verdict. Et puis, le lendemain matin, qu'est-ce qu'on apprend? La demande d'expulsion est acceptée sous 24 heures. C'est sûr que ça va se passer. Donc, vous pouvez imaginer ce qui se passe du côté des migrants et du côté des associations d'activistes. Encore une fois, on repart de zéro, la grande incertitude, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer pour nous. Et depuis, du coup, là, c'était l'escalade, de pire en pire. Du coup, ils ont été complètement dispersés, il y a des bus qui ont été affrétés, il y en a un grand nombre qui s'est retrouvé au centre de rétention administrative de l'Équin, et d'autres sur le territoire. Sauf que les centres de rétention administrative ont une capacité limitée, du coup il restait encore des centaines et des centaines de migrants qui ne pouvaient pas rentrer dans ces lieux-là. Du coup, des bus les ont transportés aux quatre coins de la région et les ont lâchés en pleine campagne. Certains policiers, une parole d'un policier du coup qui est sans doute pas représentative de la position de tous les représentants de l'ordre, mais qui leur disait une fois que vous êtes là, retournez à Calais, quoi. Et c'est de fait ce qui se passe. Du coup, c'est ce petit jeu de on disperse, mais finalement.
Il y a trois jours encore, ça s'est passé, il y a eu la manifestation des sans-papiers mercredi soir, et ils sont allés suite à la manifestation à l'écart parce qu'il y avait un écran de Calais. Effectivement, ils sont tous ressortis à Calais, ils ont été libérés.
Et du coup, dernière info de dernière minute, justement, en ce moment même, cet après-midi et demain, au tribunal administratif de Lille, du coup, passent en procès, du coup, 6 mineurs et 2 femmes. Du coup, ça se passe cet après-midi, le verdict n'est pas encore tombé, mais ça continue demain matin. Donc il y a un appel à soutien pour ceux qui veulent aller se rendre devant le tribunal administratif et attendre, du coup, en fonction de ce qui s'est décidé, pour soutenir, du coup, ce qui se passe. Le tribunal administratif de Lille, Et du coup, je vais laisser la parole à
Marie qui va être là. Voilà. Donc là, c'était le reportage sur Calais. Et maintenant, c'est deux papiers qui ont été faits sur, avec plein de guillemets, la question Rome. Qui témoigne aussi de cette forme de racisme institutionnel qu'on peut avoir, comme par rapport à Calais.
On a fait une focale qui parle pas des expulsions en tant que telles, mais qu'est-ce qui se passe avant une expulsion. Et donc ça découle de la circulaire de 2012 qui a été induite par Manuel Valls. Et avant chaque expulsion de terrain, normalement, toutes les familles doivent bénéficier, entre guillemets, d'un diagnostic individualisé pour savoir, alors ça c'est, je vous le dis comme c'est entre les lignes, pour savoir s'ils sont intégrables. Et donc à partir de là, on élabore une stratégie d'intégration à la française. Donc déjà, c'est la préfecture qui est en charge de ce qui va se passer avant l'expulsion. Et pour ça, elle mandate des associations qui doivent se porter volontaires elle bénéficie d'une grosse somme d'argent pour faire ses bilans personnalisés. Et du coup, des travailleurs sociaux de certaines associations, là on va parler du contexte lillois, on leur demande donc de faire ces bilans personnalisés. Je suis pas une grande oratrice, donc il va falloir m'excuser. un bilan personnalisé, c'est quoi? Il y a des très bons bilans qui sont faits par la CNASAT, par exemple, qui se lisent un petit peu comme des livres. Et là, en fait, nous, on a pu accéder à certains bilans. Ça se présente très simplement, c'est nom, prénom, âge, nombre d'enfants, s'ils touchent des allocations en France ou en Roumanie. Et surtout, la grosse case qui est privilégiée, c'est s'ils sont soumis à OQTF ou pas, donc obligation à quitter le territoire français, ou ils sont, s'ils ont déjà fait des... Enfin, s'ils ont déjà eu des amendes ou des peines d'emprisonnement, etc. C'est surtout ça qu'on va regarder. Donc après, ça se passe en préfecture. Faut savoir aussi en fait que ces travailleurs sociaux ont une pression énorme. On leur met sur les épaules une pression énorme parce que c'est pas du tout selon leur éthique professionnelle de savoir qui est intégrable ou pas sur des critères très très flous. Et en fait, donc tous ces bilans partent à la préfecture. De là, en préfecture, donc c'est quelqu'un qui nous en a parlé. Pardon. Et donc, de là se décide qui va pouvoir accéder à un projet d'intégration durable en France. Donc déjà, on décide de ce qui va se passer pour les Roms, alors que les personnes ne sont même pas au courant de ce à quoi ils vont devoir s'engager, en fait. Et de là, vraiment, c'est un grand pique-nique douille. Comme tout le monde est soumis au QTF, normalement, personne n'a droit d'accéder à un projet d'insertion durable. Et puis là, vraiment, ça, en préfecture, donc il y a des assos qui sont mandatés. Les assos de défense des Roms ne sont pas conviés à ces réunions en préfecture. Et de là, on va désigner sur peut-être 100 personnes, on va désigner peut-être 15 personnes qui pourront bénéficier du programme d'insertion durable. Et donc en France, c'est les villages d'insertion. Donc les villages d'insertion, il y en a 5 à Lille. Martine Aubry veut intégrer 1500 Roms à Lille. Et par contre, elle veut faire 10 villages d'insertion pour les intégrer. 10 villages d'insertion, c'est 200 personnes. Donc ça montre un peu la mauvaise foi de ce qu'elle a envisagé en fait pour les Roms. Et donc un village d'insertion, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des petits préfabriqués en périphérie urbaine souvent. On regroupe toutes les familles ensemble. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des projets d'alphabétisation pour les parents, pour les enfants. Il y a une scolarisation quand même assez suivie. Par contre, souvent, les gens sont sous vidéosurveillance. Il y a des couvre-feux. À 17h30, les visites sont interdites. On contrôle aussi les entrées et les sorties. Il y a souvent des gardes avec des chiens. Et tout ça, en plus, sous le voisinage assez méfiant autour de ces villages qui s'installent à côté de chez eux. Donc voilà, donc il y en a 5. Donc à peu près, il y a 150 personnes à Lille qui sont intégrées dans ces villages. Et depuis 2007-2008, et on a fait un petit bilan de ce que ça a donné, en fait, ces solutions d'intégration. Donc sur ces 150 personnes, il y a à peu près 9 familles, donc ça fait à peu près 40 personnes qui vont peut-être être logées dans le logement dans le Diffu, en fait. Et il y a une personne qui a trouvé un travail. Donc normalement, les associations mandatées sont censées trouver du travail pour tout le monde. Et pour l'instant, il y a une personne qui est sûre d'avoir un travail fixe pour le moment, quoi. Donc c'est totalement inefficace. Il existe d'autres solutions. Et puis en plus, on n'oblige pas les gens à adhérer à un programme d'intégration à la française comme ça, quoi. Donc aussi, je voulais dire... Pardon, hein. Oui, juste, moi je me pose la question de ce que ces bilans en fait qui sont du fichage ethnique. Donc le fichage ethnique est interdit depuis 1978, sauf que ces bilans, clairement, c'est que des familles roms et on a. Enfin, c'est du fichage policier et ethnique et en fait, qu'est-ce que ça devient après en préfecture, on ne sait pas. Donc peut-être que les données vont être informatisées et. Donc voilà, ça pose un gros problème d'éthique, quoi. Voilà.